Bonjour. Eh bien, nous allons faire une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 1. Oui, vraiment, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui escalade le mur par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis, chacune par son nom, et il les conduit dehors. Ô Jésus, je te prie de bénir ces quelques mots que je vais dire, parce que cela nous semble bien confus à première lecture. Merci mon Dieu. Amen. Je repensais à ces gens qui sont venus il y a quelque temps ici pour vivre en communauté avec nous. En fait, comme dans l'Église primitive, il y a des critères, des passages. Alors on les franchit ou on ne les franchit pas. Et voilà pourquoi. Jésus se présente comme la porte. Hein, je vous l'ai enseigné encore dernièrement, il dit « je suis la porte ». Mais en même temps, il se présente comme le berger qui franchit la porte. C'est ce qu'on vient de lire. Mais celui qui entre par la porte est, du verbe être, le berger des brebis. Il dit, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Et à celui-ci, c'est-à-dire au berger, à Jésus, le portier ouvre. Le portier. Dans Actes 2, 47, il est écrit, et chaque jour, le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, le berger, continuait à ajouter à leur groupe, c'est-à-dire à la communauté à Jérusalem, ceux qui étaient sauvés. C'est Jésus qui fait entrer les gens dans la communauté. C'est ce qu'on vient de lire. À chaque jour, le Seigneur continuait d'ajouter à leur groupe ceux qui étaient sauvés. C'est Jésus qui fait entrer les gens dans la communauté. Jésus est la porte, oui, mais il est aussi le berger qui fait entrer les brebis. Et à la porte, eh ben, il y a un portier. Mais c'est qui ce portier? C'est le berger local. Ici, c'est moi. Je suis le portier. Si les brebis qui sont conduites par Jésus jusqu'à nous ne reconnaissent pas ma voix, la voix du portier, ben, elles n'entrent pas. Non pas parce que je ne veux pas, mais parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix. C'est tout. Même si c'est Jésus qui les a conduites jusque-là, elles n'entreront pas. Relisons Jean 10, 1, 3. Mais celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre la porte et les brebis entendent sa voix. Il les appelle, il appelle ses propres brebis, chacune par son nom. Elle les conduit dehors. Dans ce texte, tout ça semble un peu confus, parce qu'on est là dans le monde des choses spirituelles. Qui est le « il » du verset 3? Je relis. « Il appelle ses propres brebis, chacune par son nom, et il les conduit dehors. » Il appelle ses propres brebis, ce « il », c'est Jésus, c'est ses propres brebis, c'est les siennes, elles sont à lui, elles ne sont pas au portier, elles ne sont pas au pasteur local, elles ne sont pas à moi. Les frères et sœurs de la communauté ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à Jésus, je suis juste le portier, le berger local. Et il, c'est-à-dire Jésus, les conduit dehors. En dehors de quoi ? En dehors du monde, il fait sortir ses brebis et ses brebis le suivent. Il les fait sortir du monde. Ce qui nous sépare du monde, c'est un mur. Il y a juste une petite porte. Et encore, c'est pas facile à trouver. Et il faut être humble pour pouvoir y passer. C'est ce que Jésus dit. Et là, il y a donc un mur. Et les gens se cognent dans le mur, plutôt que de passer par la porte. Ils essaient de grimper, de passer hors du, pour sortir du monde, pour échapper à ce monde de fous. Ils veulent entrer dans l'église, mais ils ne peuvent pas, parce que ce n'est pas par là qu'on rentre. Vous, dans la communauté, là, vous êtes les brebis du Seigneur. Est-ce que vous avez suivi Jésus? Oui. Mais pratiquement, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Eh bien, je vous raconte mon témoignage afin que vous compreniez bien, vous allez pouvoir vous identifier. Premièrement, je suis venu à Jésus parce que le Père m'attirait. La Bible dit, c'est clair, c'est Jésus qui le dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » Donc j'étais attiré par le Père parce que Dieu aime tout le monde. Il m'aimait moi aussi, il vous aime vous aussi et il vous a attiré à Jésus. « Nul ne peut venir à Jésus à moins que le Père ne l'attire. » C'est clair. Deuxièmement, Jésus, vers lequel j'étais attiré, le berger, m'a conduit à la porte. Où était cette porte? Pour moi, cette porte, elle se trouvait à Lausanne, à la maison du peuple. Maison du peuple que Raphaël, le gitan, avait louée pour y prêcher la bonne nouvelle. Mais est-ce que j'avais conscience que c'est Jésus qui me guidait? Oui, plus ou moins. Plus ou moins parce que je cherchais les choses de Dieu, je priais déjà pas mal depuis quelque temps, je cherchais les choses de Dieu. Donc plus ou moins. J'avais plus ou moins conscience que c'était Dieu qui, Jésus qui me dirigeait. Mais quand Raphaël a fait l'appel, après avoir prêché, après avoir crié qu'il fallait se repentir, j'ai reconnu sa voix. La voix du portier. La voix de celui qui se tient à la porte et qui fait entrer les brebis que Jésus lui amène. Vous comprenez? En entendant Raphaël, j'ai su que c'était la vérité. Or, Jésus dit, je suis la vérité. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que Jésus est, un, le berger, qui entre par la porte des brebis. Deux, que Jésus est la porte des brebis. Trois, que Jésus est en Raphaël le portier. Et c'est la voix de Jésus que j'ai reconnue au travers de celle de Raphaël. Même si Raphaël cabossait le français, c'était quand même Jésus qui parlait au travers de lui. Jésus est absolument tout. J'ai pas suivi une autre voie. Depuis 68 jusqu'à aujourd'hui, Raphaël est mon divin portier. Et je l'ai fréquenté jusqu'au bout. Et quand il est parti dans la gloire, il savait que j'étais toujours fidèle à la voix divine. J'avais tout le temps des conversations avec lui et je lui disais, quand je croyais quelque chose qui était un petit peu différent de son église, et on se mettait d'accord et il cherchait à comprendre, il me respectait et il me considérait toujours comme une brebis du Seigneur. Lisons le verset 6. Yeshua leur parlait d'une manière indirecte, mais ils ne comprenaient pas ce dont il leur parlait. Qu'est-ce que ces gens pouvaient comprendre de ce que Jésus leur disait là? Même les disciples ne comprenaient pas. Ce n'est d'ailleurs presque comique. Ça met en évidence la solitude de Jésus et la solitude des serviteurs de Dieu aussi. Chaque fois que ses disciples ont une occasion de montrer leur insuffisance et leur manque de foi, eh bien, ils ne manquent pas de saisir cette occasion. Chaque fois. Lisez bien les Écritures. Et ne croyez pas que les choses ont changé aujourd'hui. Elles n'ont pas changé. Excusez-moi, mais les chrétiens sont des empotés. Ce que Jésus leur dit alors, il nous le dit encore, vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas. Avez-vous l'esprit bouché, les yeux pour ne rien voir, des oreilles pour rien entendre? En fait, frères et sœurs, le point faible du projet messianique immense de Dieu, le point faible, c'est les chrétiens. Il va falloir intensifier l'entraînement, mes frères et sœurs, parce que là, vous êtes en train de ronfler, vous êtes en train de dormir, il faut se réveiller, il faut se bouger. Il faut chercher à comprendre, il faut se mettre sur ses genoux, il faut s'humilier, il faut comprendre les choses. Voilà une des raisons du pourquoi il y a des épreuves partout dans ce monde. C'est parce que les chrétiens ne font pas leur boulot, mais ils sont d'une bêtise. La bêtise continue à prendre le dessus, partout. Vous savez tous ce qui se passe à Houston, J'écoutais la radio hier dans la voiture, puis après j'ai regardé sur Internet. Il y a une dame qui s'appelle Ann Coulter, qui est une polémiste américaine, et elle a laissé comprendre, cette charmante dame croyante, que l'ouragan pourrait bien être la punition de Dieu. Parce que la population de Houston a élu une femme lesbienne comme maire de la ville. Le problème, c'est que maintenant, sa maison, elle est inondée. La maison de la polémiste, la maison de Ann Coulter, elle est aussi inondée. Alors les gens se marrent, ils disent « Ah, alors ça veut dire que peut-être Ann Coulter a des pulsions homosexuelles refoulées qu'elle nous a cachées et Dieu l'a puni aussi. » Et ils rigolent, ils se moquent. Ils se moquent de Dieu, ils se moquent de son message. Vous voyez, les chrétiens ne comprennent rien, des véritables empotés, et ils veulent à tout prix voir Dieu comme un Dieu en colère, un Dieu qui... Mais c'est pas ça! Les choses qui arrivent dans ce monde ont été annoncées afin d'attirer notre attention sur le retour de Jésus. Et ces choses doivent arriver parce qu'elles sont la conséquence d'autres choses. Ces choses arrivent pas pour que les chrétiens se servent de ces malheurs pour accuser les pécheurs. On ne doit pas les accuser, on doit leur prêcher de se repentir, c'est tout. Cela dit, pour montrer qu'aujourd'hui encore les chrétiens sont empotés, j'en parle. J'en parle parce qu'il faut que quelqu'un le dise. Mes frères et sœurs, Dieu aime tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils pour qu'il se charge de la peine que nous méritions à cause de nos péchés. Il l'a fait et maintenant il nous voit tous au travers du sang purificateur de Jésus. Dieu n'est pas en colère contre toi, ni contre personne. Mais le jour viendra où il jugera tout le monde, oui, ça c'est vrai. Mais en ce moment, il nous voit au travers du sang de Jésus. Et ce qui se passe de nos jours, toutes ces catastrophes, ces guerres, ces maladies, ces horreurs, tout ce qui se passe en ce moment, ces famines, ces pestes, ce n'est que la conséquence du dérèglement des humains. Dieu n'a rien à voir là-dedans. L'humain a tout déréglé. Ce qui provoque la colère de ceux qui sont offensés, ça fait des guerres, ça fait des attentats, des règlements qui font qu'on tombe malade, de toutes sortes de maladies pas possibles. Quand on était gamin, on nous mettait du plomb partout, et maintenant, ça déclenche des maladies, puis on dit « alors c'est à cause de ça ». Oui, il y a des conséquences, quand on fait des bêtises et qu'on dérègle tout, il y a des conséquences, et il y a des catastrophes naturelles aussi, parce que l'homme dérègle tout. C'est pas Dieu qui fait ça, c'est nous. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de souffrance. C'est nous qui faisons souffrir. C'est nous qui rendons les choses mal foutues. C'est la responsabilité des humains. On déforeste tout, on pollue tout, on abuse de tout, on pille, on tue, on fait exploser des bombes atomiques, on se nourrit de pesticides. On fume, on se fout des maladies de cancer et on fume dans la tronche des gens, ce qui leur donne des cancers à eux aussi. Et maintenant, en plus, on jette les cigarettes par les portières de voiture et on fout le feu à des hectares de forêt. On se mêle de choses qui ne nous regardent pas, on s'ingère dans les affaires des autres. La Bible dit qu'il ne faut pas le faire. Bon, le fait, il y a des conséquences. Et puis quand on a bien foutu le boxon, et puis que ça tourne vraiment mal, on dit « Oh, c'est Dieu qui est en colère !» Quelle imbécilité! Que chacun se repente, se plaigne de ses propres péchés, agisse mieux, et tout ira mieux. Mais ils ne le feront pas. Ils disent « paix et sûreté ». Ils disent, mais ils font tout le contraire de ce qu'ils disent. Pendant qu'ils disent paix et sûreté, ils se font du pognon en fabriquant des armes. Je vous fais pas le dessin, vous le connaissez. Alors, Dieu aime le monde et il demande à son Fils de conduire les gens hors du monde, dehors, c'est-à-dire dans sa bergerie. Alors Jésus le fait. Il y a beaucoup d'appelés. Et quand ils arrivent devant la porte, il y a un portier. Il y a le pasteur local. Et là, si vous ne reconnaissez pas la voix du portier, si vous n'arrivez pas à discerner que c'est la voix de Jésus qui parle au travers de lui, eh bien vous fuyez. On ne met jamais personne à la porte, c'est vous qui fuyez. Vous voulez que je vous dise? Les disciples de Jésus reconnaissent la voix du portier et les disciples de Jésus se reconnaissent entre eux. C'est un aspect essentiel de la vie de l'Église. L'Église, c'est un corps, c'est un groupe, c'est un monde. Et tous les problèmes qui existent dans l'Église de Jésus-Christ s'expliquent par des problèmes de reconnaissance. Ils ne reconnaissent pas. Il est important de se reconnaître, de se connaître dans une même famille, non? Vous savez, il n'est pas question de faire entrer un profane dans la communauté. Il est question de l'admettre à nos mystères. Il est question de l'admettre au secret du royaume de Dieu qui ne concerne que ceux de la famille de Dieu. Oui, nous avons des secrets de famille qui ne regardent pas ceux qui sont de l'autre côté du mur et qui ne veulent pas entrer par la porte. Vous voyez, nous ne sommes pas dans une démarche matérielle entre un lieu et un autre. Changer d'habitation, changer de localité, non. Nous sommes dans une démarche initiatique. Le profane qui frappe à la porte de l'Église de Jésus-Christ frappe à la porte mystérieuse qui introduit dans un monde que le monde ne connaît pas, le monde de l'esprit. Et c'est pour cette raison que nous ne recevons pas en communauté tous ceux qui voudraient y vivre. C'est une question d'ordre spirituel. On n'entre pas dans la communauté parce qu'on ne peut plus payer son loyer, ou parce qu'on n'a pas d'amis. On y entre pour une seule raison, pour Jésus, pour l'amour de Jésus. Jésus est le berger, il est la porte, il est la voie du portier, il est la route derrière la porte, et si on aime autre chose, c'est pas possible d'entrer. Et c'est pas nous qui vous mettons dehors. Ce sont les gens qui eux-mêmes retournent en arrière. Alors je prie pour que le plus grand nombre puisse comprendre ces choses et mettre en règle sa vie. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir.